with me. Des terres brunes, j'ai voulu ne garder de souvenance aucune. C'était des terres humides qui s'accrochaient aux pieds, même au-dessus du vide, elles restaient collées. J'étais un écolier et l'école était brune comme la terre accrochée. J'ai voulu ne garder de souvenance aucune. T'es sorti, on ne voyait plus. À moins c'était il y a longtemps, qu'on a fait tout un tas de conneries. Je me suis laissé dire que maintenant t'avais fini. Tu étais devant assez souvent. Moi je suivais, toi qui étais devant. Là t'as pris une méchante avance. Je tarde à entrer dans la danse. Ma voix elle me démange encore. Des cicatrices au creux des mains. Elles me disent que tu n'es pas mort. Tout va bien. Tu étais devant assez souvent. Moi je suivais, toi qui étais devant. Là t'as pris une méchante avance. Je tarde à entrer dans la danse. Avant tu te souviens qu'à 10 ans.
Toutes et à tous et bienvenue sur les antennes d'HDR et Principe Actif à l'occasion de ce pire reste à venir. Ce matin, nous parlerons nature. Vous avez entendu les petits oiseaux derrière. Nous, on les aura sûrement à d'autres moments durant cette émission. L'objet, c'est de parler nature avec un spécialiste de la spécialité, bien entendu, parce que le printemps, ça donne envie de parler nature. C'est le renouveau de tout ça. On aura l'occasion d'en parler. Nous irons passer un petit coup de fil à nos copains d'Amnesty International aussi, parce que ça y est, ils vont diffuser enfin ce fameux film « Tout va bien » au cinéma d'Evreux, au cinéma Pâté d'Evreux. Ouais, ils ont eu des petits problèmes la fois précédente, coupure d'électricité, sûrement un sabotage de ceux qui pensent que tout ne va pas bien. Et bah si, ils pourront diffuser ce film, tout va mieux. De la chronique, on retrouvera l'ami So au micro avec nous. Elle vient de s'installer sur le poste de pilotage. Salut So.
Salut à tous, salut JC.
Et puis, bien entendu, du beau son, de la bonne humeur, enfin voilà. Vous connaissez toute la recette du pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinée du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute, 99.1
HDR
et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et c'est exactement ça, le pire reste à venir. Ce matin, nous allons parler nature. Ça, je vous l'avais dit. Et comme invité, nous avons Dylan Onotaro, chargé de mission, responsable de projet, la valorisation du plan nature sur le département de l'Eure, qui est un titre bien ronflant pour un mec bien sympa qui va nous parler naturellement, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça, bonjour.
Salut, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Alors, on le disait, on va parler nature, t'es un spécialiste de la nature. Une de tes missions, c'est de valoriser justement cette nature, faciliter l'accès à la nature sur le territoire eurois. Mais je crois que tu t'intéresses à la nature de manière générale, en fait.
Ah oui, depuis très longtemps, je m'intéresse un peu à la nature au sens large.
T'es tombé dedans comment?
En fait, depuis tout petit, j'adore me balader. Moi, je viens du Calvados, de base, sur les plages de débarquement. Et je faisais beaucoup de pêche à pied quand j'étais petit. Et petit à petit, j'aimais bien être seul aussi, dans la nature, écouter. Et puis, sur le collège, on va dire, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser pour aller travailler dedans, en fait.
C'est ce rapport essentiel presque, enfin ce rapport sans réfléchir presque à la nature, alors que bon, il y a plein de connaissances à avoir bien entendu, mais quelque chose d'assez naturel, c'est cet échange-là aussi qui est intéressant avec la nature.
Oui, c'est ça.
Quelque chose de viscéral, quoi.
Oui, et puis c'est accessible de partout si on prend le temps, en fait.
Quand on regarde, il y a forcément des trucs intéressants.
Toujours.
Quand on prend le temps, ouais, c'est vrai.
Ouais, ça me fait souvent rire. Des fois, je suis dans des blablacar et puis je parle de la nature, puis je dis que j'habitais à Lyon à un moment. Puis il y en a, ils me disent ils habitent à Paris, il n'y a rien. Et je fais, ah non, faut prendre un peu plus le temps que ça parce qu'il y a toujours plein de choses, même dans des centres très urbains.
On aura l'occasion de parler nature durant toute l'heure que nous avons devant nous. C'est le printemps, en fait, hein, tout simplement. Ça me donnait envie de parler de nature. Est-ce que c'est vraiment le moment où la nature explose le plus ou c'est juste parce que c'est moi qui la regarde plus à ce moment-là?
Ah, je pense que c'est le moment où ça explose le plus. Vraiment à partir de mars, même février déjà. J'en avais déjà un petit peu parlé dans d'autres émissions, mais les amphibiens, ils sortent d'un coup. On a en fait cette période de redoux qui revient. Donc tout le monde peut se reproduire. Il y a de la nourriture en abondance aussi qui va arriver. Donc c'est vraiment la saison des amours, tout ça qui commence. Donc oui, on peut dire que c'est le réveil.
Eh ben, on aura l'occasion de parler justement de ce réveil de printemps avec toi, Dylan, durant toute l'heure qu'il y a devant nous. Pour ouvrir cette émission, je vous propose un peu de groove, parce que le groove ne fait jamais de mal, avec Woman, c'est écrit trop petit, les Womack Sisters, avec le titre « Chauffé ».
Hey.
The Womack Sisters avec le titre Chauffé.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
C'est moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
I like a mauvaise mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Bon, ce matin, pas de message, vous m'avez pas laissé un petit coucou, vous m'avez pas donné de vos nouvelles, vous m'avez pas laissé un petit poème sur notre répondeur. Vous vous rattraperez la semaine prochaine, j'en suis certain. Vous pouvez laisser, bien entendu, un message sur le 02 32 62 57 32. On le diffuse vers 8h10 le matin pour notre plus grand plaisir. Laissez-nous des messages. On poursuit, nous sommes toujours avec Dylan Honorato. J'ai écorché ton nom tout à l'heure et tu m'as gentiment laisser passer ça, mais on va rectifier tout ça. Chargé de mission spécialiste sur la valorisation du plan nature sur le département de l'Eure, mais au-delà de ça, un grand passionné et passionnant autour de la nature. Ce matin, on avait dit qu'on allait parler faune, flore autour du printemps, parce que c'était le moment ou jamais. Dernièrement, on vient quand même de se taper un petit épisode pluvieux, et comme tout bon râleur, on peut dire, il y en a marre, on veut du soleil, c'est nul, alors que cette pluie finalement vaut de l'or. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un agriculteur il y a peu de temps qui disait, là ce qui tombe, ça vaut de l'or, petite pluie fine qui rentre dans les sols, et c'est reparti. Ça sert à quoi ces pluies-là? Enfin, est-ce que c'est aussi normal qu'au printemps on s'en tape tant? Et qu'est-ce que ça dit de la nature qui va arriver?
Ah oui, il faut encore un peu de pluie. On n'est pas encore en été, et donc au niveau agricole, et notamment sur des régions comme la Normandie, où on est habitué quand même à avoir un peu de pluie toute l'année, il faut que les cultures puissent encore se gorger d'humidité pour encore pousser, grandir, fleurir. Là, je pense au lin. On est la première région exportatrice de lin, et en fait le lin adore la Normandie, et si on adore la Normandie, c'est qu'on adore la pluie, donc il faut vraiment encore pousser un peu.
C'est ça, donc finalement tous ces temps de pluie, nous quand on se balade, nous citadins, j'ai envie de dire, enfin nous citadins, on se balade beaucoup plus dans des endroits bétonnés, on se dit cette pluie-là, elle nous fatigue, on aimerait bien avoir un peu de soleil, profiter des terrasses et compagnie, ouais. Ben, faut de la pluie quoi.
Ouais, il faut un peu de pluie, il faut un peu de tout quoi. Enfin, c'est le principe des saisons, donc hiver il fait très froid, rien ne pousse, ça casse un peu aussi tout ce qui va être les bactéries, les virus, s'il fait trop doux, il y a des espèces, des parasites qui vont survivre, là donc ça casse un peu tout, ensuite la culture elle peut pousser, lever, avec la pluie, le soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, et après l'été, la récolte, et puis on recommence en automne.
On recommence, voilà, c'est un cycle sans fin. Sur, tu évoquais les cultures, quand on parle de culture, on parle bien entendu de culture qui nous nourrissent, qui nous habillent, on parle du lin, on parle du blé, on parle de l'orge, on parle de toutes ces cultures-là. Mm. Mais cette notion agricole et culture, il y a aussi tout l'intérêt, et notamment des fleurs, de tous ces pollinisateurs et tout ça. Il y a un lien quand même entre l'agriculture, on va dire agriculture, et puis tout ce qui se passe un peu autour.
Ah oui, il y a un énorme lien en fait. Là, je vais vous parler facilement des fleurs messicoles qui vivent grâce en fait à la culture. Donc les fleurs messicoles, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire.
Ah ben non, c'est pour ça qu'on te reçoit. Hein.
Donc toujours pour commencer, à chaque fois avec du public, on propose aux gens de savoir qu'est-ce qu'une espèce cavernicole. Donc c'est une espèce qui vit dans les...
Caverne.
Exactement.
C'est bon ?
Oui, c'est bon. Et une espèce arboricole.
Dans les arbres.
Et donc messicole, dans les messies, donc pas dans les joueurs de foot, mais précisément dans les moissons, messies-moissons.
Ah ouais,
et donc c'est les fleurs des champs, donc là-dessus on va avoir le coquelicot, qui est vraiment l'espèce phare, le bleuet, la chrysanthème des moissons, le vulpin des champs, l'agnelle des blés, donc plein de fleurs en fait colorées, qui vont vivre et qui ont vécu dès le début en fait. Au début elles venaient d'Asie mineure, dans les steppes, et puis en fait c'est développé l'agriculture par là-bas, et elles ont profité en fait du moment où on récolte. Elles se sont dit, tiens, la terre est nue, on peut arriver facilement, on est les premières, donc on va pousser en même temps que tout le monde. Et petit à petit, avec la récolte des graines, et puis on a ressemé les graines, et bien en fait, dedans, on avait aussi des graines messicoles. Et au fur et à mesure que l'agriculture s'est développée, et bien elles se sont aussi développées avec. Et donc elles sont arrivées en France 3000 ans plus tard. Donc on a ces fleurs en fait qui vivent grâce aux champs, aux cultures. Bon, le coquelicot est un peu... partie des cultures, hein. On en voit aussi partout, vous regardez dans les rues.
Oui, il a servi aussi dans les jardins.
Oui, c'est ça. Et puis il pousse de partout maintenant, il se dit, oh, c'est bon, hein. Je ne vais pas rester que dans les cultures, j'y vais.
Alors ces fleurs messicoles favorisent des choses, enfin, elles ont une importance aussi dans ces cultures, parce que quand on voit un champ de blé puis qu'il y a quelques fleurs entre deux, on dit c'est joli.
Oui, carrément.
Mais est-ce que ça sert à autre chose que c'est joli?
Oui, au niveau des insectes, ça va attirer beaucoup d'insectes, donc auxiliaires notamment. Donc auxiliaires ravageurs, est-ce que vous savez la différence?
Ah bah non, mais c'est une fois de plus, donc, c'est pour ça qu'on t'a invité.
En fait, dans les cultures, on va avoir des espèces ravageurs, donc ils vont casser la culture, manger la culture, détruire la culture. Donc c'est des espèces que les agriculteurs détestent. Par contre, on va avoir des espèces auxiliaires qui vont être là soit pour manger des ravageurs, soit pour favoriser encore plus le développement. Donc là, je vais penser aux syrphes. C'est des petites mouches qui ressemblent à des guêpes. Donc souvent, on se dit « Oh, il y a une abeille !» Non, non, c'est une mouche déguisée en forme de guêpe. Et puis après, il va y avoir les coccinelles aussi, qui vont adorer les abeilles, notamment. Et là-dessus, ça va aussi aider. Si je dis abeille, on pense aussi au miel. Donc ça va aussi aider pour les producteurs, les apiculteurs. Voilà, je cherche mon mot. Et donc tout ça, les messicoles participent à cela.
Alors ça participe parce que ce sont des fleurs, ce ne sont pas de mauvaises herbes.
C'est ça, ah oui, il y a réellement, en fait, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a des mauvaises herbes, même si on l'utilise familièrement. Il y a toujours une fleur qui va servir à quelque chose. Bon, des fois, mauvaises herbes, mais on pourrait peut-être le dire pour des espèces exotiques envahissantes, donc qui ne sont pas venues d'elles-mêmes, qu'on a apportées et qui en fait prennent le milieu de l'autre. Mais sinon, non, il n'y a pas de mauvaises herbes réellement et les messicoles n'en sont pas. Et autre fait sur les messicoles, mais dans la culture populaire, en fait, on a toujours aimé les messicoles depuis le 18e siècle à peu près. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des peintures de Monet, vu que c'est l'année de Monet cette année, mais Monet adore les messicoles, notamment le coquelicot qui ressort de ses peintures. Et puis en fait, le coquelicot et le bleuet, c'est vraiment les espèces phares, vu qu'on les a utilisés comme symboles, on les utilise toujours comme symboles, notamment depuis la Première Guerre mondiale, où en fait les Anglais ont décidé en fait de prendre le coquelicot comme fleur de mémoire, et nous les Français, on a pris le bleuet, donc le bleuet de France. Et donc en fait, dans la culture populaire aussi, les messicoles sont très importantes.
Alors sur les cultures qu'on vient d'aborder, ça on voit bien comment ça fonctionne. Maintenant, ça n'a quasiment plus aucun secret pour nous, maintenant que tu nous expliquais, Dylan. Mais il y a aussi dans ce qu'on va appeler dans le maraîchage, il y a aussi tout un tas de fleurs qui se mélangent au maraîchage. Moi, j'ai toujours entendu dire, faut mettre des œillets pas loin des tomates, des trucs comme ça, ce qui favorise ou ce qui éloigne certains nuisibles ou favorise la stimulation des uns et des autres. Depuis toujours, alors c'est pas forcément missicole là, hein, c'est, vu que c'est sur le maraîchage, mais l'idée est à peu près la même. C'est les espèces croisées, en fait, c'est comment les espèces s'appuient l'une sur l'autre.
Il y a des espèces, par exemple, j'ai pensé aux légumineuses, aux fabacées, donc comme le mimosa, mais aussi tout ce qui va être les pois, comme les haricots aussi. Eux, ils vont apporter par exemple beaucoup d'azote en fait dans le sol, vu qu'ils ont des petites nodosités, des champignons au pied, qui apportent de l'azote. Et ça, il y a pas grande plante qui peut le faire. Donc ça, c'est top d'en avoir pour avoir un peu d'azote dans ton sol. Si t'as pas d'azote dans ton sol, t'as moins d'engrais, tu peux moins pousser. Donc c'est important en fait de lier les deux entre eux pour favoriser en fait le développement des deux.
Alors ça, on voit bien quand l'homme intervient, c'est ce qui se passe. Mais alors dans les milieux totalement naturels, en forêt, en terrain non exploité, est-ce qu'il se passe la même chose naturellement en fait, ces associations d'espèces, il y a telle espèce, ça pousse à l'autre. Je pose des questions de plus en plus dures, hein. Mais putain, au bout d'un moment je vais te coller. Est-ce que dans l'espace naturel, on va dire, où l'homme n'intervient pas, il se passe les mêmes choses un peu naturellement, quoi?
Il y a quatre types d'interactions, si je me souviens bien de mes cours. Il y a tout ce qui va être mutualisme, symbiose. Là, c'est vraiment des espèces qui vont se chercher, donc soit qui vont vivre vraiment presque au niveau cellulaire pour se favoriser, et d'autres qui vont juste vivre et se donner de l'aide à l'un ou à l'autre. Par contre, à l'inverse, il y a aussi des espèces, notamment les pins, l'eucalyptus, bon, on en a quelques-uns, mais ça vient pas réellement de chez nous, qui vont vraiment acidifier le sol et du coup défavoriser toutes les autres plantes et prendre l'espace pour elles. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc il y a beaucoup d'interactions entre les plantes pour laisser pousser l'autre ou pas, et aussi pour attirer ou pas un insecte. On a beaucoup d'insectes qui vont en fait vivre sur une plante et qui vont protéger la plante des autres prédateurs.
C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'insectes qui ont qu'un seul habitat, qu'un seul squat, c'est Un seul type de fleur.
C'est très connu chez les papillons, ouais. Par exemple. Chez les...
Ah bah c'est tout le truc qu'on a avec les buis qui n'existent quasiment plus parce que c'est la, je sais plus comment s'appelle, la chenille. Le... Là, c'est pas oui. La. C'est, j'allais dire la mérule, c'est pas la mérule, mais c'est un papillon qui.
Oui, qui détruit
qui
le
détruit buis. Le
en fait,
buis qui... Parce que c'est seulement dans ces dans cette plante là qui.
Alors ouais.
Qui s'y colle.
Là on commence vraiment à être très précis. Je me connais moins en buis, mais je vais savoir que des papillons vont avoir leur chenille qui va se nourrir que de cette plante là, et donc on a besoin de cette plante pour je pense au damier de la succise qui va vraiment vivre sur une seule plante, et du coup pour préserver ce papillon il faut absolument qu'on préserve la fleur, et donc ça c'est une espèce très rare d'ailleurs, le damier de la succise.
D'accord, voilà. Peut-être parce que la plante est rare aussi, celle qui
peut-être,
est associée,
ou en fait son milieu est de moins en moins présent. Et donc en fait, on va faire de la culture par exemple, on va urbaniser et on va pas faire attention là où elle pousse. Je pense aussi à plein de... Là on a des coteaux à Évreux. Donc en fait, les coteaux d'Évreux, c'est très intéressant pour les pelouses qu'elles s'y collent. On va avoir plein d'espèces de plantes qui vont pousser. Et donc plein d'espèces d'insectes qui vont être intéressés par telle ou telle plante.
Et donc ça c'est ce qu'on appelle un petit peu un écosystème en fait, hein. C'est pas un peu, c'est complètement
c'est ça, toutes les interactions,
même, hein. C'est des interactions entre les espèces et puis le milieu qui font ce qu'on appelle écosystème. Autour, dans l'heure, on a un écosystème très riche, très varié, ouais. On est sur une zone où on est bien au niveau diversité.
Alors on a des énormes plateaux agricoles, l'heure est très connue pour son agriculture, donc sur ces plateaux on va avoir un peu moins de biodiversité, on va dire, riche, même s'il y en a. Je vais parler des messicoles. Même si les messicoles, il faut les préserver, donc il faut faire attention à la sélection des graines, il faut faire aussi attention aux intrants chimiques qui peuvent des fois arriver sur certaines cultures. Mais du coup, le département participe à accompagner en fait l'agriculture avec la Fédération de chasse d'ailleurs et le Conservatoire botanique de Normandie. Donc ça, c'est sur les plateaux. Et après, on va avoir des petites mares aussi sur les plateaux, on va avoir des amphibiens. Petit clin d'œil à Alexandre Rurel qui est à fond dans les amphibiens. Et par contre, après, on va avoir les coteaux. Ça, les coteaux, c'est très très important. On a vraiment beaucoup de coteaux en Normandie, notamment sur les bords de Seine, ou même dans Évreux, sur la vallée de Liton. Il y a la vallée d'Eure aussi. Donc ça, c'est sur ces coteaux-là où on a vraiment une richesse importante, voire des espèces endémiques. Donc endémiques, des espèces qui ne vivent que là, qui viennent d'ici et qui n'existent nulle part ailleurs.
J'ouvre un petit peu ce raisonnement à nos camarades rouennais notamment, sont diffuses sur toutes ces zones-là. La Seine-Maritime a aussi cette même richesse ou ça s'arrête vraiment à l'heure ?
Non, les frontières de la biodiversité.
C'est ça.
Ouais. Ouais, y a un péage et personne ne veut passer après la Seine-Maritime.
Ah bah, le péage d'un Carville, hein, c'est
ah ouais. Non, non.
La biodiversité a dit trop cher.
Pas du tout. En fait, toute la vallée de Seine, des boucles de la Seine, notamment juste de son estuaire jusqu'à presque sa source, on aura toute une grande biodiversité. Après, c'est vrai qu'on change de gradient peu à peu. Hein, on n'a pas les mêmes plateaux que vers Dijon. Mais du coup, on a trois espèces endémiques, par exemple, qu'on a à la fois en Seine-Maritime et dans l'Eure. Donc, on a la violette de Rouen. Donc, violette de Rouen.
Tout est dit dans le nom.
La biscuitelle de Neustry. Et
ça ressemble à quoi, là ?
Alors, la biscuitelle, c'est marrant, ça a des fruits en mode deux petites lunettes, comme ça. Et c'est une fleur toute jaune qui pousse sur nos coteaux. La violette de Rouen, elle, c'est une fleur violette, une violette. Et elle qui va pousser notamment sur des éboulis. Donc, en fait, on a des coteaux, les Andelys, par exemple. On va voir que des éboulis, vu que c'est de la craie, ça s'effrite beaucoup. Donc, ces éboulis, et c'est la première plante à arriver. Et toute violette, en plus, donc super top. Et après, la troisième que je connais un peu moins, vu qu'elle est en Seine-Maritime, et moi j'ai mes frontières à moi.
Toi, tu prends pas le péage.
Et c'est Libéris des montagnes, si je dis pas de bêtises, à vérifier pour ça.
Des
troisième.
Montagnes.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi des montagnes si elle est endémique?
Parce que du coup, on a des coteaux, et donc c'est un peu des petites montagnes.
Ah ouais, genre on se la pète. On a un coteau, ouais, on appelle ça une montagne.